Chapitre 27. Des cadeaux. Alors qu'elle revenait vers le camp des Aiel, Egwen tenta de se ressaisir. Mais elle n'aurait pas juré que ses pieds touchaient vraiment le sol. Enfin, c'était une façon de parler. Ses chaussures soulevaient d'infimes colonnes de poussière qui venaient s'ajouter à celles que charriait le vent. Toussant comme une perdue, la jeune femme regrettait que les matriarches ne portent pas de voile. Un châle n'offrait pas la même protection, et en plus, il vous faisait crever de chaud. La tête d'Egwen tournait comme une toupie, et ça n'avait rien à voir avec la chaleur. Au début, elle avait cru que Gawain ne la rejoindrait pas. Puis il s'était matérialisé à côté d'elle, comme par miracle. Bavardant en buvant une infusion et en se tenant la main, ils avaient passé toute la journée dans la salle à manger privée de l'échalas. Jetant la pudeur aux orties, Egwen avait embrassé son compagnon dès que la porte s'était refermée sur eux. Le pauvre Gawain n'avait même pas eu l'ombre d'une occasion de prendre les devants. Elle s'était même assise sur ses genoux. Pas longtemps, mais bon. Se retrouver dans cette posture l'avait fait repenser aux rêves du jeune homme. Allait-il les revivre? Allait-elle s'abandonner à des folies auxquelles une femme n'aurait jamais seulement dû penser? Une femme célibataire, en tout cas. Du coup, elle s'était redressée d'un bond, faisant sursauter son compagnon. Inquiète, Egwen regarda autour d'elle. Les tentes étaient encore à un bon millier de pas, et il n'y avait pas âme qui vive à proximité. Dans le cas contraire, ses aguets auraient de toute façon été trop loin pour la voir rougir. S'avisant qu'elle affichait un sourire béat, elle l'effaça de ses rêves. Elle allait devoir se surveiller un peu par la lumière. Oublier la tendre étreinte des parts de Gawain et se rappeler pourquoi ils étaient restés si longtemps à l'échalas. Alors qu'elle se frayait un chemin dans la foule, Egwen regarda autour d'elle en quête de Gawain. Non sans difficulté, elle tentait d'avoir l'air détachée. Car enfin, pas question de lui montrer à quel point elle avait hâte de le voir. Soudain, un homme se pencha sur elle et murmura. « Suis-moi jusqu'à l'échalas. » Egwen sursauta, impossible de s'en empêcher. Puis elle reconnut Gawain. En veste marron ordinaire, il portait par-dessus une fine cape, dont la capuche relevée dissimulait quasiment ses traits. Dans les rues, il n'était pas le seul à porter une cape. À part les Aiel, toute personne qui s'aventurait à l'intérieur de la ville en arborait une. Mais par ces chaleurs, on voyait très peu de capuches relevées. Egwen retint le jeune homme par la manche, quand il tenta de passer devant elle.
« De quel droit penses-tu que je vais te suivre dans une auberge, Gawain Trakand ? »
demanda-t-elle à mi-voix, jugeant inutile d'attirer l'attention sur leur petit différend.
« Nous étions censés marcher ensemble. Ne prends donc pas pour acquis certaines choses qui... les femmes que j'accompagne. »
coupa Gawain.
« Cherche quelqu'un. Une personne comme toi. »
En ma présence, elles ne sont pas loquaces, mais j'entends des bribes de conversation.
Bon, suis-moi. »
Sans un regard en arrière, le jeune homme s'éloigna, laissant Egwen lui emboîter le pas, la gorge serrée par l'angoisse. Ce souvenir fit revenir Egwen sur terre. Sous la semelle de ses bottes, la terre, justement, était presque aussi brûlante que les pavés de la cité. Gawain n'en savait guère plus long que ce qu'il avait dit dans la rue. Selon lui, cependant, elle ne pouvait pas être la femme que cherchaient les Aes Sedai. Donc elle devrait simplement être prudente quand elle canaliserait le pouvoir et éviter autant que possible de se montrer à la vue de tous. Sortant de la bouche d'un homme affublé d'un déguisement, ses propos ne s'étaient pas révélés très convaincants. Charitable, Egwen s'était abstenu de mentionner les vêtements de son compagnon. Mort d'inquiétude à l'idée de ce qui arriverait si les sœurs mettaient la main sur la jeune femme, Gawain craignait de les conduire jusqu'à elle. En même temps, et même s'il avait proposé cette solution, il n'avait aucune envie de ne plus la voir. Mais il continuait à penser qu'elle devait trouver un moyen de rentrer à Tarvalon, afin de se réfugier dans la tour. À moins qu'elle signe tout simplement la paix avec Coiraine et les autres, afin de faire la route avec elle. Egwen aurait dû être furieuse que ce jeune homme, tout prince qu'il fût, pense savoir mieux qu'elle ce qu'elle devait faire pour son propre bien. Bizarrement, ça lui donnait au contraire envie de sourire avec indulgence. Même à présent, alors qu'elle était seule. Pour une raison inconnue, elle semblait incapable de raisonner logiquement dès qu'il était question de Gawain. En outre, il s'insinuait dans toutes ses pensées. Se mordant la lèvre inférieure, Egwen se força à se concentrer sur son véritable problème. Les Aes Sedai de la Tour Blanche. Si au moins elle avait pu poser des questions à Gawain. L'interroger sur l'âge d'origine de chacune des sœurs, par exemple, ne serait pas revenu à trahir sa confiance. Non, impossible. Elle s'était fait cette promesse à elle-même, mais ne pas la tenir, paradoxalement, déshonorerait Gawain. Pas de questions. Seulement ce qui venait naturellement de lui. Quoi qu'en pense ou n'en pense pas Gawain, rien ne laissait croire que les sœurs recherchaient Egwene Alvéré. Hélas, il fallait bien reconnaître que rien ne laissait croire le contraire. Si un agent de la tour ne semblait pas en mesure de reconnaître Egwene, dans sa tenue d'Aiel, ça ne signifiait pas que ce même agent n'ait jamais entendu son nom. Voir étuvant de l'existence d'une Egwene Sedai de l'âge avert. À partir de maintenant, Egwene allait devoir être très prudente dès qu'elle s'aventurerait en ville. Plus que prudente même. Arrivée à la lisière du camp, qui s'étendait sur plus d'une lieue, couvrant les collines boisées ou non, Egwene aperçut quelques Gaïshain qui allaient et venaient entre les tentes, s'écartant humblement quand ils croisaient des guerrières ou des promises. En revanche, pas de matriarche en vue. Vis-à-vis de ces femmes, Egwene avait violé une promesse. Bien sûr, Ami s'était directement visée, mais les autres aussi. Et la fameuse nécessité devenait pour cette tromperie une justification de plus en plus tirée par les cheveux.
« Joins-toi à nous, Egwene !»
lança soudain une voix de femme. Même avec les cheveux cachés sous un châle, la jeune femme n'était pas très difficile à reconnaître, sauf quand elle se trouvait au milieu d'adolescentes. Une affaire de taille, bien entendu. Suranda, l'apprentie de Sorilea, avait passé sa tête blonde par le rabat d'une tente, et elle faisait signe à Egwene d'approcher.
« Les matriarches sont en réunion plénière. Du coup, elles nous laissent notre journée. Toute la journée. »
Un luxe rarement consenti, et une occasion qu'Egwene n'était pas du genre à rater. Sous la tente, des femmes étendues sur des coussins lisaient à la lueur de lampes à huile. Quand on fermait hermétiquement le rabat pour ne pas laisser entrer la poussière, la lumière ne passait plus non plus. Tandis que d'autres, assises, cousaient, tricotaient ou brodaient. Dans un coin, deux d'entre elles jouaient à un jeu de ficelle. Alors que le murmure des conversations emplissait la tente, plusieurs aïels sourirent à Egwene pour lui souhaiter la bienvenue. Il n'y avait pas que des apprentis. Deux mères et davantage de premières sœurs étaient là en visite, et les femmes les plus âgées portaient autant de bijoux que les matriarches. Même si les aïels ne craignaient pas la chaleur, toutes avaient entrouvert leur chemisier, le châle noué autour de la taille. Un Gaïshain se chargeait du service de l'inévitable infusion. À sa façon de bouger, on voyait qu'il s'agissait d'un artisan, pas d'un Algaï Tsitswai. De fait, ses traits étaient un peu moins durs que ceux des guerriers, et faire montre de soumission semblait lui coûter un moins grand effort qu'à eux. Un bandeau rouge autour de sa tête indiquait qu'il était un Sisswai Yaman. Aucune des femmes ne se formalisait de cette entorse à la règle, exigeant que les Gaïshain portent exclusivement du blanc. Egwene noua elle aussi son châle autour de sa taille, puis elle accepta avec reconnaissance de l'eau avec laquelle elle se lava les mains et le visage. Entr'ouvrant elle aussi son chemisier, elle prit place sur un coussin à pompons rouges, entre Suranda et Esther, l'apprentie rousse d'Iron.
Quel est le sujet de la réunion des matriarches ?
En réalité, Egwene s'en souciait fort peu. N'ayant aucune intention d'éviter totalement d'entrer en ville, elle avait même accepté d'aller voir chaque matin si Gawain l'attendait à l'échalas. Le sourire entendu de l'aubergiste l'avait bien sûr fait rougir jusqu'à la pointe des oreilles, mais qu'importait au fond les horreurs que pouvait penser cette femme. Cela dit, plus question d'aller jouer les espionnes devant le palais de Damarilyn. Après avoir quitté Gawain, Egwene s'en était approchée juste assez pour sentir qu'on canalisait toujours le pouvoir à l'intérieur. Mais elle ne s'était pas attardée. Comme si elle redoutait à tout instant que Nessuné se matérialise dans son dos et la piège.
Quelqu'un connaît la réponse ? C'est à cause de tes sœurs, bien entendu.
Fit Suranda avant d'éclater de rire. Déjà très jolie avec ses grands yeux bleus, Suranda devenait une beauté à couper le souffle lorsqu'elle riait. De 5 ans plus âgée qu'Egwene, elle était capable de canaliser aussi bien que beaucoup d'Aes Sedai et attendait avec impatience d'être appelée dans une forteresse. En attendant, et comme il se devait, elle sautait sur place dès que Sorilea pensait simplement « saute ».
Qu'est-ce qui aurait pu sinon les faire s'agiter comme si elles étaient assises sur un buisson d'épines ségades ? Nous devrions envoyer Sorilea parler aux sœurs,
dit Egwene en acceptant la tasse aux rayures vertes que lui tendait le Gaïshain. En lui racontant que les membres de la jeune garde s'étaient entassés dans toutes les chambres non occupées par les Aes Sedai, certains ayant dû se rabattre sur les écuries et les granges, Gawain avait involontairement révélé qu'il ne restait plus de place pour une fille de cuisine supplémentaire. Donc, les Aes Sedai n'attendaient plus personne. Une très bonne nouvelle.
Sorilea pourrait mater n'importe quelle meute d'Aes Sedai,
s'esclaffa Suranda. Esther daigna à peine glousser, et encore paraissait-elle quelque peu choquée. Mince jeune femme aux yeux gris toujours pleins de sérieux, elle se comportait en permanence comme si une matriarche était en train de la surveiller. Paradoxe qui ne cessait pas d'intriguer Egwene, la terrible Sorilea avait pour apprentie une femme débordante de joie de vivre, alors qu'Aeron, une matriarche toujours agréable, souriante et aimable, avait sur les bras une sorte de bonnet de nuit avide de se plier à toutes les règles qu'on voudrait bien lui imposer.
« Moi, je pense qu'il s'agit du Karakarn, »
déclara gravement Esther.
« Pourquoi ?»
demanda distraitement Egwene. Elle allait bel et bien devoir éviter la ville. Sauf pour ses rendez-vous avec Gawain, bien sûr. Si embarrassant que ce soit, elle devait admettre qu'il aurait fallu, pour la dissuader d'y aller, l'absolue certitude que Nessuné la guettait devant l'auberge. Pour ses promenades, en revanche, elle allait devoir faire de nouveau le tour de la cité et respirer toute cette poussière. Ce matin, elle avait fait une entorse à son programme, mais elle ne fournirait pas au matriarche un prétexte pour différer son retour dans le monde des rêves. Ce soir, les Aiel rencontreraient seuls les Aes Sedai de Salidar. Mais lors du prochain rendez-vous, dans une semaine, elle serait là.
« Que se passe-t-il encore ? Tu n'es pas informé ?»
s'étonna Suranda. Dans 2 ou 3 jours, Egwene pourrait de nouveau contacter Nineveh et Elaine, ou au moins leur parler dans leurs rêves. Essayez, en tout cas, car il était impossible d'être absolument certaine qu'un interlocuteur savait qu'il n'avait pas affaire à un reflet de la réalité. Pour ça, il fallait être habitué à ce type de communication, et ce n'était pas le cas d'Elaine et de Nineveh. Jusque-là, Egwene ne leur avait parlé qu'une seule fois de cette manière. Quoi qu'il en soit, l'idée de les contacter de nouveau la mettait vaguement mal à l'aise. À ce sujet, elle avait eu un autre cauchemar, ou quasi-cauchemar, des plus nébuleux. Chaque fois qu'une des deux femmes disait un mot, elle trébuchait, tombait tête la première, lâchait une coupe ou une assiette ou renversait un vase. Bref, il était toujours question de quelque chose qui se cassait en tombant. Depuis qu'elle avait interprété le rêve où Gawain devenait son champion, Egwene tentait de percer à jour tous ses songes. Sans grand résultat jusque-là, mais ce cauchemar, elle en était sûre, avait un sens. Voulait-il dire qu'elle devait attendre le prochain rendez-vous pour parler à ses amis ? Sans oublier qu'il y avait le risque de tomber encore sur les rêves de Gawain, d'être attirée à l'intérieur. À cette seule idée, Egwene sentit qu'elle rougissait.
« Le Karakarn est revenu, » dit Esteir. « Il rencontrera tes sœurs cet après-midi. »
Egwene oublia aussitôt Gawain et tout le reste. 2 fois en 10 jours ? Rand n'avait pas l'habitude de venir si souvent. Pourquoi ce changement ? Avait-il entendu parler de la délégation d'Aes Sedai ? Si oui, comment ? Bien entendu, il y avait l'éternelle question liée au voyage éclair de Rand. Comment s'y prenait-il ?
Comment s'y prend-il pour quoi faire ?
Demanda Esther. Egwene sursauta, surprise d'avoir parlé à voix haute.
« Me retourner si facilement l'estomac. C'est un homme, Egwene. »
compatit Suranda, mais avec un beau sourire.
« C'est le Karakarn, »
dit Esther avec une vibrante ferveur. Si ça continuait, paria Egwene, l'apprenti d'Aeron finirait par porter le ridicule bandeau rouge autour du front. Volontiers railleuse, Suranda demanda à Esther comment elle escomptait s'imposer à un chef de forteresse, de clan ou de tribu, si elle ne comprenait pas qu'un homme restait un homme, même quand il en dirigeait d'autres. Entêtée, Esther affirma que ça ne valait pas quand il s'agissait du Karakarn. Mera, une des deux mères venues rendre visite à leur fille, se pencha vers les deux apprentis et affirma avec un grand sérieux qu'il fallait amadouer un chef, qu'il dirige une forteresse, un clan ou une tribu, ou qu'il soit le Karakarn en personne, exactement comme on amadouait un mari. Baïrin, l'autre mère, salua cette saillie d'un éclat de rire. Puis elle ajouta que c'était une excellente recette pour qu'une maîtresse du toit dépose son couteau à vos pieds, une déclaration d'hostilité franche et massive. Avant de se marier, Baïrin avait fait partie des promises, mais n'importe qui pouvait déclarer son hostilité à n'importe qui, excepté à une matriarche ou à un forgeron. Avant que Mera ait fini sa phrase, tout le monde sous la tente, sauf le Gaïshain, fit écho à ses propos. Oui, le Karakarn était un chef parmi les chefs, et rien de plus. Mais quand on voulait aborder un chef, devait-on s'adresser à lui directement ou passer par sa maîtresse du toit ? Sur ce sujet, les opinions divergeaient. Egwene s'intéressa de très loin à ce débat. Selon toute probabilité, Rand ne ferait rien de dangereux ou de stupide. Réagissant avec le scepticisme requis face à la lettre d'Elaïda, il avait été plus convaincu par celle d'Alviarin, non seulement plus cordiale, mais frisant par moments la flagornerie. Depuis, il pensait avoir des amis à la tour, voire des fidèles. Egwene n'en croyait pas un mot. 3 serments ou pas, elle aurait juré qu'Elaïda et Alviarin avaient rédigé ensemble cette seconde lettre qui parlait pompeusement de « baigner dans la lumière du Seigneur Dragon », rien que ça. Un coup monté pour attirer Rand à la cour, ça tombait sous le sens. Baissant les yeux sur ses mains, Egwene eut un soupir mélancolique. Puis elle posa sa tasse, que le Gaïshine vint récupérer à la vitesse de l'éclair.
« Je dois partir. Quelque chose que je dois absolument faire et qui m'était sorti de l'esprit. »
Suranda et Esther lancèrent qu'elles allaient accompagner leur amie. Ce n'étaient pas vraiment des propos en l'air. Chez les Aiel, ça n'existait quasiment pas. Cependant, quand Egwene insista pour qu'elle reste sous la tente, les deux jeunes femmes, immergées dans la conversation en cours, ne protestèrent même pas. Alors que Mera, d'un ton péremptoire, déclarait à Esther qu'une future matriarche, tant qu'elle était future, justement, avait intérêt à écouter une femme qui avait su faire face à un mari, tout en élevant trois filles et deux fils sans l'aide d'une sœur épouse, Egwene remit son châle sur sa tête et ses épaules et sortit pour retrouver les tourbillons de poussière. Une fois en ville, elle s'efforça de raser les murs sans en avoir l'air, regardant partout en même temps, tout en donnant l'impression qu'elle s'intéressait uniquement à ce qu'il y avait devant ses pieds. Les risques de tomber sur Nessuné étaient minimes, mais... Devant elle, deux femmes en robe stricte et tablier immaculée tentèrent de s'éviter. Mais choisirent toutes deux de s'écarter dans la même direction et se retrouvèrent nez à nez. Après s'être toutes deux excusées, elles répétèrent la manœuvre et s'écartèrent de nouveau du même côté. D'autres excuses suivirent, puis le ballet recommença. Quand Egwene les dépassa, elles étaient toujours en train d'essayer de se croiser. Les joues roses, le ton de moins en moins courtois, elles pouvaient continuer indéfiniment comme ça. Rand était en ville, comme cet incident ridicule était là pour le rappeler. Avec lui à Caerien, Egwene n'aurait pas été surprise de tomber sur les Six Aes Sedai, tant qu'à faire, alors qu'une rafale de vent lui arrachait son châle et que quelqu'un l'appelait en lui donnant un plein poumon de l'Egwene Sedai. Avec Rand dans la cité, il n'aurait pas été impensable de croiser Elaïda. Egwene accéléra le pas, craignant de plus en plus d'être prise dans une des bizarreries de taverne dont le jeune homme était prodigue. Formidable coup de chance, la vue d'une Aiel au regard mauvais et au visage couvert, pour les citadins, il n'y avait aucune différence entre un châle et un voile, incita les passants à lui dégager le chemin. Libre de foncer comme l'éclair, la jeune femme ne songea pas à reprendre paisiblement son souffle, avant d'être entrée dans le palais du soleil par une petite porte de service. Dans le couloir étroit où flottaient des odeurs de cuisine, des serviteurs des deux sexes allaient et venaient sans prendre le temps de s'intéresser à ce qu'il y avait autour d'eux. Se délassant en bras de chemise ou s'éventant avec leur tablier, d'autres domestiques écarquillèrent les yeux en apercevant Egwene. À l'évidence, à part le personnel du palais, il ne devait pas y avoir beaucoup de gens qui s'aventuraient si près des cuisines. Et certainement pas une Aiel. À la façon dont ces gens la regardaient, Egwene se demanda s'il redoutait de la voir sortir une lance de sous sa jupe. Braquant un index sur un petit homme au ventre rebondi qui s'épongeait la nuque avec un mouchoir, la jeune femme lança.
« Savez-vous où est Randaltor ?»
Le type sursauta, regarda ses compagnons, qui s'égayaient comme une volée de moineaux, et résista de justesse à l'envie de prendre ses jambes à son cou.
« Le seigneur dragon ? Eh bien, maîtresse, je suppose qu'il doit être dans ses appartements. »
L'homme prit la tangente tout en s'inclinant d'abondance.
« Si maîtresse... Si la noble dame veut bien m'excuser, je dois... »
« Non. Vous allez me conduire, »
fit Egwene, impitoyable. Cette fois, elle n'avait aucune envie d'errer pendant des heures. Après un coup d'œil accablé à ses amis, qui n'étaient plus là, le petit homme étouffa un soupir, leva les yeux sur son interlocutrice, redoutant de la voir offensée, puis alla récupérer la veste de sa livrée. Dans le labyrinthe de couloirs, le serviteur se révéla un guide des plus compétents, même si sa tendance à multiplier les courbettes pour un oui ou pour un non allongea inutilement le trajet. Quand il désigna enfin une grande porte à deux battants ornée d'un magnifique soleil, et gardée par une promise et un guerrier, Egwene congédia le petit homme, en éprouvant à son égard une sorte de mépris dont elle ne comprit pas vraiment les raisons. Après tout, il faisait ce qu'il était payé pour faire. Le guerrier se leva. Très grand, d'âge moyen, c'était un colosse aux yeux gris et à la mine austère. N'ayant jamais vu Egwene, il entendait à l'évidence l'empêcher d'entrer. Heureusement, la promise intervint.
« Laisse-la passer, Maric, »
dit Somara avec un grand sourire.
« C'est l'apprenti d'Amis, de Beyr et de Mélaine, la seule de ma connaissance qui serve votre matriarche. Pour être essoufflée comme ça, elle doit avoir couru un bon moment avant de délivrer un message urgent à Randaltor. »«
Couru ?»
fit Maric avec un petit rire qui n'adoucit ni ses traits ni son regard.
« Ramper, plutôt, à voir dans quel état elle est. »
Egwene n'eut pas besoin d'un dessin pour comprendre ce que voulait dire le guerrier. Sortant un mouchoir de sa bourse, elle s'essuya vivement les joues. Personne ne prenait au sérieux une interlocutrice crasseuse. Il allait falloir que Rand l'écoute.
Un message important, en tout cas, Somara. Il est seul, j'espère. Les Aes Sedai ne sont pas encore arrivés.
Avec un soupir, Egwene remit à sa place le mouchoir désormais grisâtre.
On ne les attend pas avant un bon moment,
dit Somara.
Diras-tu à Randall Thor d'être prudent? Je ne veux pas manquer de respect à tes sœurs, mais il n'est pas du genre à regarder où il met les pieds. Quand il a une idée en tête, je le lui dirai, ne t'inquiète pas.
Egwene ne put s'empêcher de sourire. Elle avait déjà entendu Somara et quelques autres promises parler de Rand avec la fierté un rien exaspéré dont fait montre une mère pour son fils de 10 ans têtu comme un baudet. Ce devait être de l'humour à Yel, et même si elle n'y comprenait rien, Egwene encourageait tous les comportements susceptibles d'empêcher la tête de Rand d'enfler démesurément.
Je lui dirai aussi de se nettoyer les oreilles.
Somara acquiesça, puis comprit que c'était une plaisanterie.
Mon ami, dit Egwene, mes sœurs ne doivent pas savoir que je suis ici.
Cessant une seconde d'étudier de pied en cap tous les domestiques qui entraient dans le couloir, Marik jeta un regard interloqué à Egwene. Décidément, elle allait devoir marcher sur des œufs.
Nous ne sommes pas proches, Somara. À dire vrai, on peut difficilement imaginer des sœurs plus éloignées. Les pires querelles naissent entre les premières sœurs,
renchérit la promise.
Entre, Egwene Sedai. Je ne prononcerai pas ton nom devant tes sœurs. Et si la langue de Marik s'agite, j'y ferai un nœud.
Plus grand que la promise, et 2 bonnes fois plus lourd, le guerrier eut l'ombre d'un sourire. Sans regarder Somara, toutefois. Par le passé, la tendance des promises à laisser entrer Egwene sans l'annoncer avait provoqué des situations embarrassantes. Mais cette fois, Rand n'était pas dans son bain. Les appartements ayant jadis été ceux du roi, l'antichambre évoquait irrésistiblement une salle du trône en miniature, si on la comparait au véritable hall d'honneur, car sinon, elle aurait pu faire l'affaire. Les rayons du soleil incrustés dans le sol de pierre polie étant ce qui se rapprochait le plus d'une courbe dans ce décor, tout le reste glorifiait la perpendicularité. Les cadres dorés des miroirs, les dorures rectilignes qui ornaient les murs, entre chacune de ces glaces, et même la profonde corniche composée de triangles superposés comme des écailles. De chaque côté du soleil gravé dans le sol, une rangée de fauteuils rigoureusement alignés rappelait que tout ici obéissait à la dictature de la ligne droite. Rand était assis dans un autre fauteuil, 2 fois plus rehaussé d'or que les autres et au dossier beaucoup plus haut, qui reposait sur une petite estrade elle aussi surchargée de dorures. Vêtu d'une veste rouge brodée de fils d'or, son moignon de lance dans le creux d'un bras, l'ami d'enfance d'Egwene tirait sa tête des mauvais jours. On eût dit un roi sur le point de tuer ou de faire tuer quelqu'un. Les poings plaqués sur les hanches, Egwene entra sans tarder dans le vif du sujet.
« Jeune homme, Somara te fait dire de te laver les oreilles sans tarder. »
Surpris et un rien vexé, Rand leva les yeux. Mais il se reprit vite. Souriant, il se leva et posa son curieux sceptre sur le siège.
« Au nom de la lumière, où as-tu donc été te traîner ?»
Après avoir traversé la pièce, Rand prit son ami par les épaules et la força à se tourner vers un miroir. Egwene ne put s'empêcher de grimacer. Quel spectacle affligeant! Transformée en une sorte de boue par la sueur, la poussière avait traversé son châle et laissé sur son front et le long de ses joues de longs sillons de crasse. La vaine tentative avec le mouchoir avait aggravé les choses, lui barbouillant carrément le visage de limon.
« Je vais demander à Somara de nous faire apporter de l'eau,
la charande.
Avec un peu de chance, elle croira que c'est pour mes oreilles. »
Ce sourire ironique, quelle torture!
« C'est inutile, »
répondit Egwene, en mobilisant toute la dignité offusquée qui lui restait. Pas question qu'il la regarde se débarbouiller. Sortant de nouveau son mouchoir souillé, elle tenta néanmoins d'enlever le plus gros de la crasse.
« Tu vas bientôt rencontrer Coiraine et les autres. Tu n'as pas besoin que je te dise à quel point elles sont dangereuses, pas vrai? Si je n'en ai pas besoin, pourquoi le dis-tu? La délégation ne sera pas au complet. Pas plus de 3 sœurs. Voilà ce que j'ai demandé. Et elles ont accepté. »
Dans le miroir, Egwene vit que Rand hochait la tête, comme s'il écoutait un interlocuteur invisible.
Oui, je peux en dominer 3 si elles ne sont pas trop puissantes.
Soudain, Rand s'avisa qu'Egwene le voyait dans le miroir.
Bien sûr, si l'une d'entre elles est Mogadienne affublée d'une perruque ou ses mirages, je risque d'avoir des problèmes. Rand, tu dois prendre cette affaire au sérieux.
Même avec l'aide du miroir, le mouchoir ne faisait pas grand bien. À contre-cœur, Egwene se résigna à cracher dessus. À sa connaissance, il n'y avait pas de façon noble et digne de cracher dans un mouchoir.
« Je sais que tu es très puissant, mais ce sont des Aes Sedai. Ne les traite pas comme s'il s'agissait de paysannes. Même si tu penses qu'Alviarine et toutes ses amies s'agenouilleront pour de bon devant toi, Ces sœurs-là sont envoyées par Elaïda. Son objectif est de te passer une laisse autour du cou. Ne te fais surtout pas d'illusions. Pour être franche, tu devrais renvoyer ces femmes.
Et me fier à tes amis introuvables ? Demanda Rand d'un ton trop serein pour être honnête. Rien à faire pour ses joues, dut constater Egwene. Elle aurait dû accepter pour l'eau. Mais pas question de se ridiculiser en demandant après avoir refusé l'offre.
Tu ne peux pas te fier à Elaïda, et tu le sais.
Egwene se tourna lentement vers Rand. Se souvenant de ce qui s'était passé la dernière fois, elle n'entendait pas simplement mentionner les Aes Sedai de Salidar.
Oui, tu le sais.
Je ne fais confiance à aucune Aes Sedai. Elle...
Rand hésita, comme s'il avait voulu prononcer un autre mot, même si Egwene n'aurait su imaginer lequel.
Elles essaieront de m'utiliser, et je tenterai de leur rendre l'appareil. N'est-ce pas ça qu'on appelle un joli cercle vicieux ?
Si elle avait un jour pensé possible que Rand entre en contact avec les Aes Sedai de Salidar, ce qu'elle lut dans ses yeux, si dur et si froid qu'elle en frissonnait, convainquit Egwene de jeter cette idée aux orties. S'il devenait furieux, sa rencontre avec Coiren faisant assez d'étincelles pour que la délégation reparte vers la tour les mains vides, il y aurait peut-être une chance.
Si tu le trouves joli, ton cercle, je suppose qu'il l'est. Après tout, c'est toi le dragon réincarné. Bon, puisque tu veux en passer par là, autant faire les choses bien. N'oublie pas que ce sont des Aes Sedai. Même un roi doit les écouter avec respect, y compris quand il n'est pas d'accord. Et un souverain, à ta place, se serait déjà mis en route pour Tarvalon. Les hauts seigneurs de Théar agiraient ainsi, et même Pedron Nial,